On vous demande encore de nous excuser les petits couacs techniques qu'on a eus avec notre invité, mais j'espère que ça vous a enrichi. À bientôt et bonne année combative!
À l'âge de 12 ans, il faut qualifier d'enfant délinquant, petit meurtrier. Et à 14 ans, de psychopathe grave et d'adolescent irrécupérable. Et à 17 ans, t'étais alcoolique, encore au redressement et les coups de trique. Et à 18 ans, tu as fait l'armée chez les délinquants, tu as déserté. À l'âge de 20 ans, t'es devenu violent, t'as pris les devants. Il y a eu du sang, ils t'ont envoyé au pénitencier. Au lieu d'écouter, au lieu de t'aider, quand tu sortiras, y'aura rien pour toi. Tu recommenceras, car telle est la loi. Pour les enrager, et quelle société, pour les têtes cassées, et quelle société, pour les têtes coulées, pour les agiter, pour les pénibler, et quelle société, pour les verrouiller, pour les défoncer, pour les détraquer.
sign, and yet we talk all of the time. Their faces never really show the way their quiet footsteps go. And when I greet them, my mask is just the same. I put no trust in the crooked and the lame. If you wanna walk, just get up on your feet. And if you wanna talk, just open up your mouth and speak. What is the ugly secret that you cherish in your heart? The truth that you can't stand, that drives you from the land of the living.
Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui commence sur la radio libertaire, radio de la Fédération d'Archistes sans tenue ni publicité. Vous venez d'entendre No Means No, un titre qui s'appelle The Land of the Living de 93 et qui, comme c'est la tradition ici, est en rapport direct avec le livre que nous vous présentons ce soir, qui s'appelle Vivre sans produire, petit livre de Vincent Rigoulet et Alexandra Bidet aux éditions du Croquant, qui vient pratiquement de sortir puisque il est dans les librairies depuis août 2023. Donc ce soir c'est Michel qui va nous présenter ce texte, José toujours à la technique, comme le pilier qu'il est depuis de nombreuses années. Michel, c'est toi qui as choisi de proposer ce texte ce soir. Donc Vivre sans produire, Vincent Rigoulet, oui. Alexandra Bidet, de quoi s'agit-il? Dis-nous.
Et donc, c'est dans le cadre, en quelque sorte, du problème que nous connaissons tous en matière écologique. Enfin, j'espère que nous le connaissons tous, et de la catastrophe écologique en cours. Et quel type de réponse on peut lui apporter? Rigoulet et Bidet se sont penchés, donc Vincent Rigoulet et Alexandra Bidet se sont penchés, en quelque sorte, sur trois philosophes, disons, trois penseurs du vivant. Qui, d'une certaine manière, réfléchissent dans le cadre, justement, du rapport, on pourrait dire, du rapport au monde, qu'on pourrait qualifier éventuellement d'occidental, de capitaliste, de productiviste, et, en quelque sorte, de la façon dont ils vont critiquer ce rapport au monde et proposer une solution pour échapper à la catastrophe écologique en cours.
Donc, on est sur un mode écologie...
Et justement...
Intello.
Écologie super, ouais. Intello. Et, en quelque sorte, alors, les trois livres qu'ils vont présenter, il y a un livre de Dushan Kazik, un livre de Baptiste Morisot et un livre de Nastasia Martin. Ces trois livres qui sont aussi des héritiers essentiellement de Bruno Latour et de Philippe Descola. Donc Latour, sociologue des sciences, mort il n'y a pas si longtemps que ça.
Il y a deux ans.
Descola, anthropologue français, professeur au Collège de France, qui a écrit en particulier donc des études ethnographiques comme Les Lances du Crépuscule, mais aussi un livre qui a marqué pas mal de gens, semble-t-il, Par de la nature et culture. Et en fait, ça va être un livre, c'est un livre un peu... Alors, le ton n'est pas polémique, mais c'est un livre argumenté qui va contre cette tendance-là dans la compréhension, finalement, non seulement des problèmes écologiques, mais aussi des solutions qu'on pourrait leur apporter. Et de mon point de vue, et une des choses qui m'a beaucoup intéressé dans l'ouvrage, c'est que c'est une réfutation, à mon sens, assez ferme d'une forme, je dirais, un peu hérétique d'idéalisme français, d'idéalisme au sens où le monde n'est que le fruit de notre représentation. En changeant notre rapport au monde et en changeant la représentation que l'on ferait du monde, on ferait l'essentiel du travail. Et donc, en abandonnant des mots, on ferait disparaître la réalité à laquelle renvoient ces mots. Et je trouve que, pour le coup, c'est une entreprise intellectuelle assez robuste et assez intéressante. D'autant que l'auteur et l'autrice ont le bon goût, que je n'aurais certainement pas eu, d'éviter les blagues et d'éviter, de se payer la tête des auteurs qui, de mon point de vue, parfois le mériteraient franchement. Et donc, ils restent sur un ton assez, philosophique, argumenté. Ils citent les textes, ils citent les références des textes, et ils exposent des arguments et des contre-arguments. Et après, le souci que j'ai, moi, c'est que comme j'ai pas lu les textes dont ils parlent, il faudrait quand même... ça reste la réserve personnelle. Peut-être qu'ils tordent un peu les choses, mais ils dégagent malgré tout, à travers ces trois livres, une espèce de vision un petit peu, d'une écologie qui serait... détaché de la production, enfin d'une humanité qui serait détachée de la production, qui reviendrait à des formes ou à des ontologies, c'est-à-dire des façons de voir le monde antérieures à la nôtre, ce qui pourrait nous sauver.
Oui, ça c'est le point commun des auteurs qu'ils visent, que tu as cité là, des Scola et Latour, c'est que c'est des auteurs qui considèrent que les problèmes écologiques dont il est beaucoup question aujourd'hui, en fait, sont essentiellement liés à la manière dont on se représente le monde, dont on se représente la nature. Et donc, des Scola, effectivement, en tant qu'anthropologue et quelqu'un qui s'est intéressé à différents types de sociétés humaines et a essayé de classer ou de déterminer enfin différents mm-hmm. types de vision de la nature, différents types de vision du monde. Et on est effectivement essentiellement sur un terrain, c'est celui des représentations en fait, hein, que les gens se font de la nature, du monde en général, de la place de l'homme dans la nature. Voilà, est-ce que et c'est des auteurs qui effectivement considèrent aussi. Alors Latour, c'est un petit peu autre chose. Latour est un penseur qui se revendique du catholicisme, donc il y a lui, donc qui effectivement est dans une veine un peu comparable, c'est-à-dire que il pense que c'est quand on veut on peut quoi, hein, quand on veut on peut, c'est-à-dire et surtout quand on pense bien, et ben on veut bien et puis du coup on peut bien, et qu'effectivement du coup les contraintes matérielles ou les contingences liées, tu en as parlé, à la production sont secondaires, et qu'il faut avant tout effectivement changer notre manière de voir, notre manière de penser, et que l'essentiel du problème sera réglé de cette manière-là. Et donc c'est évidemment, donc c'est, apparemment c'est contre ça, effectivement, contre ce type d'approche que le livre est construit.
Oui. Et Latour, on en avait déjà parlé, parce qu'on s'était un peu foutu de lui, parce qu'il y a très longtemps il avait écrit un article sur ce fameux pharaon dont on avait
un bon exemple
dont on avait trouvé dans les poumons de ce pharaon, j'oublie toujours lequel,
Toutankhamon,
ouais. On avait trouvé des bacilles de coq, et donc on avait supposé que ce pharaon était mort de la tuberculose, et Latour était intervenu dans un article brillantissime où il expliquait qu'il ne pouvait pas être mort à cause du bacille de coq, puisque coq n'était pas encore vivant,
voilà,
et alors il avait déplacé, alors là je vous le présente sous une forme un peu comique, mais il avait essayé de justifier ça en disant que d'une certaine manière l'invention la découverte du virus était aussi son invention.
Et c'est très difficile. Le virus n'existe pas tant qu'il n'est pas connu ou pensé par un être.
Donc là, vous avez une forme d'idéalisme, c'est-à-dire que n'existe en quelque sorte que ce qui est reconnu par l'esprit humain. Alors évidemment, il était assez.
Il n'y a pas de réalité extérieure, en fait.
C'est ça. Alors, il était assez subtil pour essayer de contourner ce genre de formulation qu'il exposerait immédiatement au ridicule, mais malgré tout, il y a derrière un fond très très fort. Et c'était allié à quelque chose qui peut sembler un peu contradictoire, puisque c'est quelqu'un qui défendait le programme fort de la sociologie des sciences, c'est-à-dire l'idée que finalement les sociologues qui étudient les scientifiques savent mieux que les scientifiques
ce que les scientifiques sont en train de faire,
ce que les scientifiques sont en train de faire, en train de découvrir.
En train de découvrir, plus exactement. Oui. Tu as raison de préciser.
En train de découvrir.
Ça, on peut défendre l'idée qu'ils apprennent des choses sur ce que font les scientifiques, que les scientifiques n'ont pas forcément à l'esprit.
Ce serait légitime.
Mais c'est sur le contenu même, effectivement, des découvertes, et sur le contenu scientifique, en fait, que finalement les sociologues étaient des voyants de ce qui était en train de se passer. Alors, en termes de d'engagement écologique ou de la manière de poser les problèmes, donc ça se présente de quelle manière? Dis-nous.
C'est-à-dire.
Le livre.
Voilà.
Les actions lesquelles sont critiquées.
Donc ils sont donc. Il y a pas mal de, comment dire, de choses philosophiques. Alors il y a trois livres donc qui sont examinés tour à tour. Un premier livre de Dusan Kasic qui s'intitule Les plantes n'en font qu'à leur tête. Quand les plantes n'en font qu'à leur tête. Concevoir un monde sans production ni économie. Donc ça c'était chez La Découverte. C'est publié en 2021. Et donc Kasic, lui, va proposer une espèce de critique, de l'agriculture productiviste à travers justement l'analyse de ce qu'il appelle la production. Et alors c'est un peu complexe. Son idée c'est quoi? C'est que le concept de production n'est pas un concept universel, qu'on n'a pas toujours produit. Et que dans d'autres cultures, et là il s'appuie sur Décola, et le bouquin de Décola qui s'intitule Les Lances du Crépuscule, où vous avez une analyse de la culture hachoir, en Amazonie, et où c'est essentiellement, alors c'est des gens qui font de la culture sur brûlis, mais qui font aussi pas mal de cueillettes, et qui connaissent pas forcément le mot production. Et donc il va y avoir toute une critique de ce rapport au monde productiviste, qui part d'un texte qui citait de Décola, donc l'anthropologue. Alors, oui, c'est ça, je vous cite Kasic citant Décola. L'anthropologue Philippe Décola a très bien perçu ce problème dans Par-delà nature et culture. Il écrit que pour les hachoirs, par exemple, il n'y a guère d'intérêt à parler de production agricole. Les femmes hachoires ne produisent pas les plantes qu'elles cultivent. Elles ont avec elles un commerce de personne à personne, s'adressant à chacune pour toucher son âme, et ainsi se l'approprier, favoriser sa croissance et l'aider dans les écueils de la vie, tout comme le fait une mère avec ses enfants. Les hommes hachoirs ne produisent pas les animaux qu'ils chassent. et alors ici produisent étant entre guillemets. Ils ont avec eux un commerce de personne à personne, une relation circonspecte, où entrent à parts égales la ruse et la séduction, tâchant de les amadouer par des paroles captieuses et des fausses promesses. Autrement dit, ce sont des relations entre sujets, humains et non-humains, qui conditionnent ici la production, entre guillemets, des moyens d'existence, non la production des objets qui conditionnent les relations entre sujets humains. Donc il y a ici l'idée que, justement, on pourrait s'inspirer de cette culture pour entretenir un autre rapport avec le monde non-humain. Et que nous, nous sommes pris dans un rapport qui n'est pas universel, qui est historiquement situé, qui serait celui de la production. Et donc là, il y a un site, je peux vous citer le texte de Décola qui inspire ça, qui est intéressant aussi. Certes, on a produit, entre guillemets, en tout lieu et en tout temps. Ça, j'aime beaucoup. Là, les guillemets sont magnifiques, il faut ajouter. C'est-à-dire qu'ici, le mot production, il dit, certes, on a produit en tout lieu et en tout temps. Mais alors, que veut dire production ici? Puisque c'est entre guillemets. Partout, les humains ont modifié ou façonné des substances de façon intentionnelle, afin de se procurer des moyens d'existence, exerçant ainsi leur capacité de se comporter comme des agents qui imposent une forme, une finalité spécifique et une matière indépendante d'eux-mêmes. Peut-on dire pour autant que l'on appréhende partout ce genre d'action, selon le modèle de la relation au monde appelée production, si paradigmatique et familière pour nous que nous avons pris l'habitude de l'employer pour qualifier des opérations très hétérogènes dans des contextes divers? Donc ici, bon, à la rigueur, pour l'instant, je me dis pourquoi pas.
Question de vocabulaire.
Question de vocabulaire et peut-être un peu plus. C'est-à-dire qu'effectivement, si on chasse et qu'on cueille, effectivement, c'est pas forcément, on n'a pas forcément un rapport de. On ne voit pas la nature comme quelque chose que l'on exploitait pour produire des trucs. Bon. En revanche, ça peut être aussi plus que même une question de vocabulaire, ça peut être un mode d'organisation de la subsistance. Et effectivement, nous, on peut vivre dans un modèle productiviste, et eux, non. Pourquoi pas, après tout. Et ensuite, les choses vont quand même. Mais lui, le truc, c'est qu'il va pas s'arrêter à l'étude, Kazik, de. Il va pas s'arrêter aux hachoirs étudiés par Décola. Il va essayer de retrouver ce rapport au monde présent chez nous. Et il va essayer d'en faire une espèce de modèle à suivre. Ce qui peut poser de gros problèmes. Déjà, un des premiers problèmes qu'on peut retrouver, c'est que c'est pas parce qu'un peuple n'a pas dans son vocabulaire un concept particulier qu'il n'y a pas la pratique afférente. Et là, on peut déjà tomber dans une espèce d'idéalisme linguistique, c'est-à-dire ce dont on n'a pas le mot n'existe pas en quelque sorte. Chez
n'existe pas en pratique. Quoi.
N'existe pas en pratique. Et déjà là, ça peut être problématique. Ouais. Mais ensuite, tout ça va s'appuyer aussi. Alors lui, donc, il va étudier Kazik, il va étudier quand les plantes n'en font qu'à leur tête, des paysans qui travaillent dans des petites structures en maraîchage hors céréaliculture. Et donc. Là-dessus, pour lui, ce qu'il appelle production agricole, ça va être quand on est obligé de produire des choses en grande quantité qui sont à optimiser. Quand on est obligé de compter, de parler en kilos. Et donc, ça va s'accompagner ici de toute une critique aussi de la mesure scientifique et de la culture, justement, du comptage. Mmh. Qui peut remonter, on peut remonter à Heidegger, en fait, assez vite. Et son idée, c'est qu'il va essayer de distinguer, en France, deux types de travaux. Le travail productiviste qui produit des légumes et qui les compte, et puis les gens qui vont travailler avec les plantes, et dont le rapport au monde va être modifié par, justement, le rapport à l'étrangeté, au non-humain. D'accord ? Donc bon, ça s'accompagne évidemment toute une critique, de la technique, qu'on trouve chez Heidegger, où Heidegger va dire en quelque sorte, on retrouve cette idée-là de rapport au monde, et Heidegger lui va dire chez les Grecs, on attendait que la nature se dévoile, alors que nous, à travers la production, Heidegger, là, fait ces étymologies qu'il aime bien, il dit production, ça vient du latin, c'est produkere, c'est conduire, amener devant, par la force. Et donc nous voyons comme des sujets souverains, et nous voyons la nature comme quelque chose à soumettre. Et c'est ce modèle-là, productiviste, qui va être mis en cause dans le bouquin là de Kazik. Et donc ici, il va dire voilà, le raisonnement sous-jacent donc de Dušan Kazik pourrait être reconstruit comme tel. Le partage du monde entre sujet et objet, culture et nature, et les pratiques et rapports aux non-humains associés ne sont pas universels. En témoigne de façon emblématique les hachoirs étudiés par Décola. Ces derniers ne sont pas malheureux, entretiennent un rapport harmonieux et durable à leur milieu, qui maintient un équilibre entre ce qu'ils prélèvent et ce que leur donne leur partenaire non humain. Leur modèle ontologique, c'est-à-dire la façon dont ils voient le monde et dont ils perçoivent les êtres dans le monde et dont ils les hiérarchisent, est moins dommageable que le nôtre pour le vivant. Aussi, nous gagnerions à nous en inspirer, même si aucun des auteurs ne propose pour autant d'en revenir à une ontologie pré-moderne. Et ils vont dire, et là il y a quand même tout un tas de soucis, c'est-à-dire que...
La question c'est comment qu'on fait.
C'est ça, c'est comment qu'on fait. Et en plus, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il va dire les agriculteurs que Kazik a suivis et sur lesquels il se fonde pour établir sa thèse, dit non seulement il manifeste une grande distance au modèle Achuar, en même temps qu'une forte proximité avec la modernité Oni. Et il va dire en particulier, c'est-à-dire que eux, ceux qu'il a étudiés, vivent de la vente de plantes et une clientèle haut de gamme, constituée d'épiceries fines, de restaurants gastronomiques, de grandes villes. Et ces plantes sont achetées à prix d'or, ce qui fait qu'effectivement, le problème de la quantité se pose moins. Et il va dire qu'en fait, les agriculteurs qu'il a étudiés envisagent en fait le travail plutôt comme des professions libérales qui sont affranchies des contraintes du salariat. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vivent comme des riches, mais ça veut dire que en fait, ils ont bien calculé une bonne niche économique où se situer en vendant à qui il fallait. Et alors, et en plus...
C'est qui, en fait
Alors, je vais te donner un exemple après, qu'il y a un exemple qui est croquignolet et qui montre, à mon avis, une impasse majeure, ce type de modèle. Il ajoute, il y a quand même un autre problème avec ce modèle, c'est que, il y a plein de problèmes. Il dit, la grande majorité des consommateurs ne peuvent pas s'offrir ce genre de produits de luxe. Ensuite, ce type d'agriculteur n'est pas à même de satisfaire nos besoins alimentaires. Ni pour la masse, ni pour la minorité. Parce que c'est souvent des légumes qui vont être servis en accompagnement, mais qui peuvent pas nourrir des gens. Il n'y a pas de céréales, il n'y a pas non plus de féculents. Tu vois? Et ensuite, il dit, ce modèle proposé se désintéresse du principal problème structurel de l'agriculture française. C'est l'effondrement de la population agricole, divisé par 4 en 40 ans, tombé à moins de 1% de la population totale, qui doit cependant nourrir les 99% restants. Et là, il y a quand même un petit souci. Et ensuite, le truc, c'est que, justement, comme ils ignorent ce fait-là, comme Kazik ignore ce fait-là, il va plutôt partir du côté de parler autrement, abandonner le langage de la production et se comporter différemment à l'égard de ses légumes. Et par exemple, il va citer donc son ami Raymond, qui cultive 90 hectares de blé en agriculture conventionnelle et qui s'est également mis à parler à ses légumes. Et depuis, ça va beaucoup mieux dans le champ. Ils s'entendent beaucoup mieux. L'histoire de Raymond, alors là c'est Kazik qui parle,
Il est où ce Raymond?
Raymond, je ne sais pas, c'est un paysan qui a ses 90 hectares de blé en agriculture conventionnelle. Et donc, il n'y a pas que les petits paysans qui parlent à leurs plantes. Et là, ça accompagne quoi? C'est l'idée que justement c'est le rapport au monde qui va tout changer, parce que qu'est-ce qui suit? Ils vont dire, voilà, même un gros paysan conventionnel peut changer son rapport au monde. Et ils vont ajouter... L'agriculture biologique, elle, est décriée dans la mesure où elle n'apporte pas de changement significatif au niveau épistémologique et ontologique. Elle fait la même chose, sans pesticides, mais appartient toujours au monde de la production. Donc, à la limite, est-ce qu'il vaut mieux être Raymond, cultivateur en conventionnel de 90 hectares, qui parle à ses légumes, ou, quelqu'un qui va cultiver ses légumes en bio? Les deux sont des méchants productivistes. C'est pareil, aux yeux. Et tu vois, là, il y a une espèce d'indifférenciation. Du fait du prisme adopté, et à mon sens, le côté pour eux, c'est pas signé. Il n'y a pas de changement significatif avec l'agriculture bio, parce que il n'y a pas le changement épistémologique et ontologique. En gros, il faut changer l'agriculture depuis les bibliothèques de Paris 4. C'est quoi le projet, quoi? C'est quand même un peu particulier.
Et surtout, en quoi Raymond apporte le moindre début de solution au problème?
C'est ça.
Ah oui, on est d'accord, oui.
Zéro. Alors qu'éventuellement, l'agriculture biologique, effectivement, pose d'autres problèmes, est toujours productiviste, mais elle apporte un début de solution.
Elle est productiviste, ça dépend de ce qu'on appelle productiviste.
Ça dépend, elle produit moins, parce qu'elle produit 30 à 40% de moins. Voilà. Mais et c'est quand même assez fou d'en arriver là. Et après, Et donc, l'idée aussi de redonner une espèce d'agentivité, de fait que... Il y a quelque chose qui change avec le rapport au monde, un rapport au monde non productiviste. Le dernier exemple que je donnerai à son sujet, parce qu'il est quand même magnifique, c'est qu'ils vont citer une grande entreprise parisienne qui achète des légumes primaires pour les revendre à des restaurants de luxe. Et l'un des jeunes patrons explique ainsi peiner à recruter des employés qualifiés. va trouver des gens qui doivent faire de la manutention, qui doivent s'intéresser au végétal et qui doivent travailler la nuit avec en plus des salaires pas très élevés.
C'est un problème.
Plus loin, on apprend que leurs employés travaillent largement au-delà du temps réglementaire, ont du mal à déposer leur congé et leur RTT. Beaucoup quittent l'entreprise car ils n'arrivent pas à tenir la cadence. Il y a des arrêts maladie aussi. Et alors, la version, l'interprétation que fait Dusan Kasic de ça est quand même invraisemblable. Il explique, à l'heure actuelle, Terroir d'Avenir, donc l'espèce de start-up parisienne de vente de légumes primeurs, emploie plus de 60 salariés qui s'agitent dans tous les sens pour répondre à l'extraordinaire puissance d'agir des fruits, des herbes et des légumes. Ces derniers les font durement travailler et créent un bordel monstre. Les employés sont littéralement débordés, ils et elles sont dépassés par le monde végétal.
Ah oui, non, mais là on est en plein délire, alors pour le coup, bobo complet là.
C'est ça, Vincent Régoulet et Alexandra Bidet, c'est facile quoi. Le fait pour le moins surprenant, ce sont les plantes, c'est plus qu'humains qui les font durement travailler, pas leurs patrons qui ont dénonché le bon filon du vivant. Dans ce nouveau récit, la domination passe du côté de l'agentivité libérée des fruits et légumes, sans que l'on sache ce qu'en pensent les employés non interrogés. D'autant que, il récite Kasic, blâmer le néolibéralisme, la mondialisation et le capitalisme pour avoir dévasté le monde renvoie à des histoires déjà mille fois racontées. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut raconter de nouvelles histoires pour trouver un créneau universitaire ?
Malheureusement assez souvent, c'est comme ça revient à dépolitiser complètement le problème à dire que en fait, la solution, c'est de se convertir.
Oui.
Voilà, donc tu convertis, tu parles différemment, tu te convertis à la gentilité des légumes et puis c'est réglé.
C'est bon. Voilà, donc on va faire une pause musicale parce que là on vous a sans doute épuisé et puis on revient, c'est la gentilité des légumes, c'est nous les légumes aussi.
Bonsoir à tous et bien sûr Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième partie ce soir avec un
un livre qui s'appelle « Vivre sans produire », un livre de Vincent Rigoulet et Alexandra Bidet aux éditions du Croquant qui vient de sortir. Vous venez d'entendre « Fugazi in Defense of Humans », un morceau de 1988. Pourquoi ce morceau ? Eh bien parce que Michel, qui nous présente ce livre ce soir, nous expliquait juste avant cette première pause musicale qu'on trouve dans ce livre une critique assez serrée d'un certain nombre d'auteurs qui s'inscrivent dans un courant assez important aujourd'hui dans le mouvement écologiste, qui considère que la solution aux problèmes liés à la crise climatique, crise environnementale, crise écologique au sens très large que nous connaissons aujourd'hui, que les solutions passent essentiellement par une espèce de conversion de notre regard, de notre manière de nous situer par rapport au vivant. Dans le prolongement de certains auteurs comme Philippe Descola ou Bruno Latour, et qui nous invite, là, les auteurs discutés et critiqués par les auteurs de ce petit livre, à changer notre regard pour régler les problèmes, mais sans trop se soucier finalement de ce qu'on va finalement finir par manger dans nos assiettes. Et donc le grand ennemi, le grand problème, c'est non pas la réalité, mais notre conception de la production, dont il faudrait nous débarrasser et qu'il faudrait convertir notre regard, abandonner cette lubie et cette violence faite à la terre et au vivant, et accepter que la terre se soulève et que le vivant se soulève. Et puis les problèmes seront réglés. Alors on n'est pas sûr que du coup ça nous laisse suffisamment pour dîner ce soir. Mais donc du coup t'as présenté une des premières critiques qui était faite dans le livre. Alors il y a trois auteurs, tu dis, qui analysent et qui remettent un petit peu en question. Alors donc tu nous as parlé de Raymond, cet agriculteur conventionnel non bio qui parle à ses légumes. Tu nous as parlé, on n'a pas son prénom, c'est dommage, parce que cette petite start-up parisienne pleine d'avenir, terroir d'avenir, voilà, qui fait dans le légume de luxe.
Oui,
en exploitant ses salariés.
Non, c'est les légumes qui exploitent les salariés, Jean-Mathias.
Ah oui, voilà.
La gentilité du légume.
Ses salariés, voilà. Mais en fait, tout cela est lié à notre vieux regard du vieux monde.
C'est ça.
Et en fait, ce qu'il faut accepter, c'est qu'au fond, ce sont les légumes qui exploitent les salariés de Terroir d'Avenir.
Alors, le légume est exigeant.
Oui, le légume se soulève et le légume exige. Voilà. Le légume.
Plus sérieux que nous.
Exactement. On est en train de déraper, de faire des blagues douteuses, alors que
le livre est vachement sérieux et argumente. Et c'est sa vertu. Et moi,
alors,
j'aurais pas pu résister à faire des
blagues. J'aurais envie de te dire, après Raymond, qui d'autre ?
Après Raymond, et Dushan Kazik et son livre « Quand les plantes n'en font qu'à leur tête ». Donc Vincent Rigoulet et Alexandra Bidet passent à Baptiste Morisot, qui est un peu plus connu, je crois. Qui lui a écrit un livre, il a écrit plusieurs, mais là le livre qui intéresse notre auteur et notre autrice, c'est Raviver les braises du vivant. Et donc d'après les auteurs, comment dire, s'attaque peut-être de façon plus directe à la question de la production, qu'il va essayer de définir pour justement la critiquer. Et son idée, c'est que la production, il va la définir justement à partir de ce qu'il estime être, en quelque sorte, la séparation proprement occidentale entre le sujet et l'objet, entre l'être humain et la nature, et avec l'idée que d'une certaine manière, la nature serait amorphe et que c'est l'être humain qui va la transformer à travers la production. Alors, ça va poser tout un tas de soucis, cette définition qui est critiquée de manière un peu serrée dans le livre « Vivre sans produire » de Vincent Rigoulet et Alexandra Bidet. Et ici, l'idée de Morisot, si je passe différentes choses, c'est que cette vision du monde occidentale qui sépare le sujet, l'objet, la nature, la culture, l'homme, la nature, l'homme et les animaux, tout ce qui est non-humain, favorise une appropriation du végétal et de l'animal, en les codant comme des produits de notre action. C'est-à-dire que l'être humain devient une espèce de démiurge, devient une espèce de créateur. Et donc ici, son idée, c'est qu'on surévalue l'initiative humaine dans la genèse du produit, et on dévalue l'agentivité du vivant dans sa propre genèse. Et pour Morisot, cette idée de production, c'est une, comment dire, la fonction, disons, de la métaphysique de la production, là on le cite, comme mythe fondateur des modernes. Parce qu'il y a aussi, chez tous ces auteurs qui sont critiqués, un fort antimodernisme. Critiqué à travers, justement, tout un biais, comment dire, ou toute une vision qu'on peut retrouver de ces auteurs qu'on a souvent vus, qui sont justement plutôt romantiques, plutôt antimodernes.
C'est une critique du progrès.
C'est la critique du progrès, c'est assez classique, quoi. Et donc, lui, son idée, c'est que, justement...
Baptiste Morisot, qui est quand même un des cofondateurs des soulèvements, pour le coup.
Oui.
Bon, voilà, universitaire, normalien, etc.
Oui.
Mais c'est quelqu'un qui a une certaine audience.
Hein. C'est ça.
Et donc, effectivement, bon, voilà, une écologie antimoderniste.
Et donc, pour lui, il faudrait, en quelque sorte, alors, aller contre ça et, comment dire, alors, parce que le livre est riche. Alors, eux, bon, ils vont dire que, justement, cette vision de la productivité, de la production, du concept de production, est quand même assez problématique parce que, déjà, Morisot n'arrive pas à lui situer une origine un peu précise. C'est des éléments métaphysiques, idéologiques, qu'il prend à droite à gauche, chez les Grecs, chez les chrétiens, à différentes époques. Donc, il n'y a pas forcément une matrice identifiable, ce qui est problématique quand on essaie d'assigner... comment dire, la cause du mal, quoi. La cause de tous nos maux, qui serait la traduction d'où ça vient, ben, un peu partout, on sait pas trop. Donc ça, c'est quand même un peu gênant. Et d'autre part, il y a aussi, finalement, derrière ça, une figure paradigmatique qui est problématique, parce que c'est celle du sculpteur. En quelque sorte, le sculpteur qui est confronté à une matière première, qui va informer, dans laquelle il va mettre en forme. Et est-ce que ce modèle, on peut le plaquer sur, par exemple, la production agricole? Et là, ils vont dire, ça pose quand même pas mal de problèmes. D'une part, c'est prolonger pour eux un biais intellectualiste qui marque la critique humaniste du travail industriel au profit du geste artisanal. C'est encore le côté anti-moderne. Et justement, parce qu'on pourrait dire que seule l'agriculture échappe à l'idéal du geste créateur, à la base, avant même une espèce de critique écologique. C'est-à-dire que, justement, tous les paysans savent que pour produire du blé, il faut compter sur le temps qui fait, sur les bestioles qui passent, sur le sol que tu as, et ils savent à quel point, en quelque sorte, leur activité est dépendante du monde externe. Et d'autre part, ils vont dire, et en plus, il y a aussi autre chose qui est quand même problématique, c'est que comprendre l'activité productrice en général à travers cette espèce de modèle artisanal ou artistique, ça met de côté des observations qui ont été faites par les psychologues du travail depuis 70 ou 80 ans, et qui consistent à dire que, en fait, de toute puissance, l'opérateur humain connaît plutôt dans nos sociétés technicisées une difficulté croissante à savoir ce qu'il produit en propre. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une chaîne à l'usine, qu'est-ce que vous produisez? Est-ce que vous pouvez vous poser en démurge producteur? C'est quand même compliqué. Et il cite par exemple Naville, fondateur de la sociologie du travail, qui a mis en exergue, dès les années 50, la psychologie inquiète des opérateurs de conduite des processus productifs automatisés qui peinent à savoir comment ils interviennent en tant que tels.
Oui, mais j'imagine que ça, c'est pas forcément une objection, non? Parce que ça,
ouais.
Justement, lui, il critique ce type, il critique ce cadre-là. Le cadre, c'est pas le cadre industriel dans lequel il...
Ouais, mais en quelque sorte, il en fait la métaphysique de notre époque, qui conditionnerait notre rapport aux choses, aux objets,
ah oui, c'est
de manière générale.
Ce qui est un non-sens complet.
Ce qui est un non-sens complet.
Oui.
C'est-à-dire que ça vient à généraliser, finalement, le modèle artistique ou artisanal.
Okay. Comme si c'était effectivement le modèle dominant.
C'est ça.
D'accord, ok. Là, je comprends mieux.
Tu vois, okay. Et donc, là, il y a quand même un petit souci. Et comme très très souvent, chez ce type de philosophe, une espèce de généralisation à l'ensemble des acteurs humains d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire, il dit, voilà, autrement dit, le producteur, Morisot écrit, le producteur s'institue auteur du vivant qu'il a élevé et cultivé, ce qui permet spontanément une appropriation. Et donc là, il commente, les auteurs qui nous intéressent, là, Vincent Régoulet et Alexandra Bidet dans Vivre sans produire commentent, autrement dit, pour Morisot, le producteur fait comme si tout, Morisot fait comme si tout agriculteur pensait et agissait à la manière d'Aristote ou de Descartes, mais à son insu. Et donc, ils vont dire, ce que Morisot reproche à notre vision du monde qui serait réductionniste, qui réduirait la nature à une matière qu'on peut s'approprier. Et Prométhée, hein, et prométhéisme, c'est l'idée que l'homme devrait tout dominer, n'en faire qu'à sa tête en quelque sorte, nous sommes plutôt du côté du philosophe. Réductionnisme, car la production est réduite finalement au modèle aristotélicien d'une transformation de matière amorphe. Et prométhéiste, parce que ils pensent que les philosophes et leurs idées font l'histoire. Oui, en gros, pour comprendre l'agriculture moderne, ouais, il faut lire Aristote.
Bien sûr, c'est ça, oui.
C'est toujours pareil. Et ça, c'est le geste qu'on retrouve depuis Heidegger et depuis quelques autres. Ouais. C'est si vous voulez comprendre l'histoire du monde, lisez les philosophes. Ouais. Et mettez de côté tout ce qui pourrait être, je sais pas moi, rapport économique de production,
ou même votre expérience directe.
Ou même votre expérience directe, ou même surtout votre expérience directe, d'ailleurs. Ouais. Et donc là-dessus, globalement, ce que va faire Morizet, sans le dire, c'est revenir à un autre Aristote, pas l'Aristote de la poétique, mais l'Aristote de la physique. Dans la physique d'Aristote, qu'est-ce qui va caractériser le vivant? C'est qu'il a une spontanéité et qu'il croit par lui-même, sans l'intervention humaine. Et donc l'idée, là, c'est de comprendre que ce qu'il faudrait profondément changer notre rapport au monde, ce que l'agriculteur devrait comprendre pour nous sauver, c'est que c'est pas lui qui fait pousser les plantes, c'est la photosynthèse. Et que donc l'homme ne produit pas de végétaux.
Et donc?
L'homme ne produit pas de végétaux.
Et donc?
Voilà. Et il ne produit pas de végétaux, c'est pas lui le producteur.
D'accord. Donc on est... Donc... Et en fait, non, mais ce qui est fascinant, si tu veux, c'est parce que ça, c'est un élève de Simondon, j'imagine.
Oui, en partie.
Voilà. Et en fait, si tu veux, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ces gens-là sont persuadés que la réalité, c'est la philosophie.
Oui.
Et en fait, ils te proposent une philosophie alternative qui ne change absolument, mais rien.
Oui.
Évidemment, bah, parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de point de contact, en fait.
Non.
Donc, en fait, bah, le fait de changer son regard ou de considérer que, en fait, c'est la photosynthèse et pas toi qui produit les carottes.
Oui.
En fait, qu'est-ce que ça change?
Rien.
Mais rien. En fait, c'est assez fascinant quand même comme truc. C'est-à-dire que ils ont changé un mot dans leur dans leur tête et donc c'est bon.
C'est ça.
C'est
tout à fait ça. Et donc comment dire, ben là on a un peu une limite forte, quoi. C'est-à-dire, ben on va faire une pause musicale.
Ouais, je pense
qu'il puis on en a besoin. et puis parce que je voudrais quand même passer à la troisième partie, peut-être ajouter deux trois choses sur ce que disent justement Vincent Rigoulet et Alexandra Bidet dans Vivre sans produire, l'insoutenable légèreté des penseurs du vivant.
Bonsoir à tous et bien sûr Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui attaque sa troisième et dernière partie ce soir. Avec, alors vous venez d'entendre In Vitro, La vie n'est poubelle, morceau de 1989. Et nous parlons ce soir d'un petit livre qui vient de sortir aux éditions du Croquant, qui s'appelle Vivre sans produire, l'insoutenable légèreté des penseurs du vivant. C'est un petit livre de Vincent Rigoulet et d'Alexandra Bidet, qui se prend un petit peu en voilà en alignement, mais sur le fond, hein, visiblement, des trois auteurs qui se présentent comme des penseurs du vivant et qui nous invitent à convertir notre regard sur la nature et sur le vivant, notamment pour régler les problèmes environnementaux posés par la production agricole. Il s'agit donc de se débarrasser, pour ces auteurs, sous des formes différentes, de notre manière de penser la production, et puis en se débarrassant, en changeant notre regard, en convertissant notre regard, et bien ma foi, les problèmes se vaporisent, se dissipent. Évidemment, ça ne marche pas. Et c'est ce que nous rappellent Vincent Rigoulet et Alexandre Bidet. Alors, tu nous as parlé de l'analyse qu'il propose, analyse très critique des certains textes de Baptiste Morisot. Qui d'autre?
En allant très vite.
Oui. Qui d'autre, du coup, dans ce chamboule-tout des prophètes du vivant?
Alors avant tout, je voudrais dire que le morceau précédent était un petit hommage de José à nos amis, à nos vieux, très vieux amis communs morts il y a 10 ans, Nicolas. On avait fait une émission par hasard le soir de sa mort. Voilà, et donc là, il avait l'habitude de crier dans les concerts où on allait « Poubelle !» Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent et qui nous connaissaient aussi à l'époque... Voilà, c'était un petit hommage. Et donc, on arrive à la troisième et dernière partie de l'émission. Et là, c'est une autrice. Donc, c'est le livre d'une autrice qui vont critiquer, qui est anthropologue, qui s'appelle Nastassia Martin, et qui elle s'était intéressée, un peu comme Nicolas s'est intéressé au peuple hachoir, au peuple even. Je pense que je vais le prononcer. C'est des Russes. Comme un contre-modèle de la modernité. Et elle, c'est un peuple autochtone de la Sibérie extrême-orientale. C'est d'anciens éleveurs nomades de Rennes, qui ont été sédentarisés de force à l'époque soviétique, et qui, après la chute de l'URSS, pour certains en tout cas, une famille en tout cas en 1989, a réussi à regagner son autonomie, ce qui n'était pas évident, et est retournée en forêt vivre de chasse, de pêche et de cueillette.
Une tradition.
Et elle est justement, il va y voir, dans l'ensauvagement, une espèce de modèle anti-productiviste et anti-extractionnisme. Alors évidemment, là, il passe assez vite sur ce qu'elle écrit parce que, elle représente une espèce de d'extrémité presque intenable des courants qu'il réfute,
primitiviste,
et en particulier primitiviste, et ils disent il y a quand même une banalité à remarquer, c'est quand bien même tout le monde le voudrait et le pourrait, les milieux naturels sont trop pauvres en biomasse comestible pour nourrir l'ensemble de l'humanité, et estimer la vie d'avant ou hors de l'agriculture comme la seule viable et la plus désirable reviendrait à approuver inconsciemment une forme d'exterminisme malthusien. Et donc il gage, il suppose que évidemment Nastassia Martin le sait très bien, que c'est pas ce qu'elle souhaite réellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors de s'inspirer de ce modèle de gens qui reviennent à la chasse et à la cueillette. Et là encore, en quoi est-ce qu'on peut s'inspirer de ces peuples pour faire face au désastre écologique en cours? Et là encore. Une des ambitions, c'est de provincialiser notre vision du monde, de la relativiser. Mais elle va nous inviter à nous mettre à l'école des even, dont elle relève l'attention à la performativité des mots posés sur le monde et la propension à les taire pour éviter qu'ils ne produisent des effets incontrôlables sur ceux qui les entendent. Et donc, selon elle, la non-disposition d'esprit à toute forme de parole négative ou pessimiste, leur refus quasi catégorique du catastrophisme est une disposition d'esprit éminemment puissante, dont l'efficacité est largement prouvée. Chez les Even, on ne parle surtout pas de ce qui dysfonctionne ou risque de dysfonctionner. Évoquer la question du non-retour potentiel des êtres qui comptent ce n'est pas dans leur corde. Ils sont prêts pour le macronisme, en fait, ces gens-là.
Oui. C'est-à-dire
ils sont en marche. Ils sont en marche, quoi. Surtout, pas parler de ce qui fâche, quoi.
Ils sont en marche, mais en même temps, ils contribuent à l'ensauvagement de la société.
C'est ça. C'est et donc, il dit, rapporter ici, ces citations de là-bas ne nous mettent-elles pas face à une forme avancée de déni, éminemment moderne et typique de société à dissonance cognitive marquée. C'est la nôtre, ouais. Quoi. Et donc, et justement, en plus, ils ajoutent que... en fait, transposer ça chez nous, c'est l'illustration même.
Chez nous, partout.
Chez nous,
hein.
En un sens, c'est de pouvoir choisir ensemble, rationnellement, ce qui compte, nous affecte nos relations avec les choses. En fait, c'est une vision moderne. C'est-à-dire qu'elle se prétend anti-moderniste, mais en nous invitant à adopter une vision du monde d'un peuple autre, c'est un geste moderne. Et donc, bon, ils n'insistent pas trop parce qu'elle est, comment dire, c'est peu crédible, disons. Mais ensuite, donc je vais pas trop insister, mais bon, allez lire parce que c'est intéressant. Et donc après, il y a toute une critique assez philosophique dans lesquelles, bon là, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais pour eux, tous ces remèdes-là ont quand même des airs de narcotiques. C'est-à-dire, on est fasciné par le lointain, peut-être parce qu'on éprouve beaucoup de ressentiments à l'égard du proche et de l'ici même. Mais il n'empêche que, ben, justement, d'un point de vue écologique, ça n'apporte aucune solution. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est des choses, ben, déjà, comment dire. Alors, bon, ils reviennent aussi sur les bases philosophiques, mais l'idée, c'est pas de penser sans la production. L'idée, c'est d'une banalité triste, quoi. C'est comment produire sans tout détruire. Parce que si on ne veut pas que faire disparaître 90% de l'humanité de crever de faim, il faut continuer à produire. Simplement, on sait aussi que si on continue à produire comme on produit maintenant, c'est une catastrophe à moyen terme. Et donc, leur idée, c'est que ben, on ne peut pas en réalité, comment dire, se cantonner à une espèce de binarisme qui est souvent rejeté par les auteurs en question en plus, qui rejette le binarisme occidental. Mais une espèce de binarisme entre, par exemple, la forêt et la ville. Il faut penser les campagnes. Les campagnes où il y a une nature qui effectivement est exploitée par les êtres humains. Mais toute la question étant de, justement, d'articuler nos connaissances scientifiques, mais aussi nos connaissances scientifiques du vivant, mais aussi à ce qui nous pend au nez. Savoir, comment dire, une destruction de, comment dire, des terres agricoles et tout un tas de choses. Et donc pour eux, le problème, c'est pas de, en quelque sorte, de tourner le dos à la modernité, comme si, en quelque sorte, c'était... la modernité qui ayant produit tous nos problèmes, il faudrait s'en débarrasser absolument. Jeter le bébé avec l'eau du bain, en un sens.
Donc, ce qui est troublant quand même, parce ouais. que moi je suis bon, entièrement d'accord avec ouais. ça.
Mais c'est marrant parce que c'est des banalités en même temps, tu vois.
À la fois c'est des banalités et en même temps, ce qui n'est ouais. pas complètement rassurant, oui. si tu veux, c'est le crédit. Alors, c'est le fait que des gens puissent écrire cela. Alors moi, c'est pas pour
comme
pour
les gens comme Morisot, tu veux dire.
Oui, c'est-à-dire que. Et c'est une espèce d'idéologie du vivant, mm-hmm. si tu veux, complètement dépolitisante, oui. Sans la moindre solution, oui. Et creuse, je veux dire, enfin, conceptuellement creuse. Et qui t'interdit en fait de réfléchir politiquement ou pratiquement même oui. je dirais en pratique au moindre problème et c'est pas marginal et ça c'est quand même une question parce que c'est vrai dans les mouvements écologistes en particulier mais pas seulement c'est ça qui est troublant on en parlait pendant la pause musicale là, mais effectivement ça fait partie en fait de cette espèce de voilà de d'idéologie du vivant qu'on peut trouver alors complètement démontée pièce par pièce chez Mouzil dont on parlait la dernière fois notamment mais qui pensait lui effectivement qui des auteurs voilà de la fin du 19e ou du début du 20e mmh. siècle qui étaient en fait les prémices les prémices d'espèce d'effondrement en fait de la discussion mmh. de l'analyse rationnelle critique de tous les domaines et puis voilà de l'arrivée bon c'est pas faire du point Godwin mais
si
mais,
on y pense tout de suite
Mais évidemment, on y pense.
C'est-à-dire que l'apologie politique de la vie, les nazis le faisaient. Quoi.
Exactement. Mais... Je veux dire, retourner en forêt pour communiquer avec les rennes ou tu vois ou être sensible effectivement à la gentilité, à la gentilité des légumes. Bon, on le dit de manière un peu ironique, mais d'où ça peut venir la crédibilité de ces discours-là. Voilà, c'est quand même une question qu'il faut se poser parce que.
parce qu'effectivement, ça tient pas la route deux minutes. Et alors, à la fois, je sais, moi, bon, de ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est à la fois important de critiquer, de démonter sur le fond. Alors, Mouzy, il était plutôt sur un registre de la satire, lui. Peut-être qu'il faut les deux. Voilà. C'est une question qu'on peut se poser, mais on aura l'occasion d'y revenir.
C'était une réfutation sans ironie. Ouais. Vincent Rigoulet, Alexandre Abidet, Vivre sans produire, L'insoutenable légèreté des penseurs du vivant, aux éditions du Croquant. On vous laisse, il est 20h30 et on se retrouve bien bientôt.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Des gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4. Bonsoir, vous êtes bien dans Musique en lutte sur Radio Libertaire. Et aujourd'hui, on reçoit le rappeur Irascible, donc un rappeur engagé depuis plusieurs années. Donc tu as sorti plusieurs EP et albums. T'as aussi fait pas mal de collaborations et des concerts sur des événements militants, comme des lives de soutien sur des ZAD, dans les manifs du 1er mai, ou plus récemment en soutien à la compagnie Jolimope, dont le théâtre La Belle Étoile est menacé d'expulsion, et aussi sur tout un tas d'autres événements. Donc pour commencer, je te propose de te présenter et de nous parler de ce qui t'a amené à faire du rap.
Bah, merci pour l'invitation déjà. Et puis, c'était déjà une belle présentation. Je sais pas trop ce que j'ai ajouté, mais effectivement, moi, c'est Irascible. J'ai fait différentes collaborations, notamment avec Debamix, où on a eu l'occasion de se retrouver tous les deux, entre autres. Maintenant, ça fait 10 ans. Qui est sorti mon premier EP, Des Illusions. Il était sorti en 2014, ça va faire 10 ans donc que je sors des choses, même si j'ai commencé à rapper un petit peu avant dans ma chambre quand j'étais adolescent. Mais je ne sais pas s'il y a une raison vraiment qui m'a poussé à faire du rap. C'est venu un peu spontanément, je pense parce que c'était la musique en vogue à ce moment-là et que ça m'a parlé, et que c'était un moyen d'expression accessible. Et voilà.
Et du coup, comment ça se passe aujourd'hui? T'es entouré d'une équipe. Enfin, moi, je t'avais vu récemment en live à la Gare Expérimentale. Et il y avait un DJ maintenant qui venait avec toi.
Bah, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai été accompagné de ma clé USB. Et c'est... ça fait le taf, hein, mais bon, déjà, ça donne plus de taf à l'ingénieur du son de la salle qui doit passer tes morceaux en plus de s'assurer que le son soit bien. Et ça, c'est limité quand même, parce que en live, c'est bien de pouvoir rebondir, de pouvoir faire des cuts, de pouvoir. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, je suis entouré de DJ. Pas toujours les mêmes selon les dispos, mais voilà, en tout cas, j'ai un DJ avec moi. D'ailleurs, j'en profite pour passer un big up à Big Daddy The Jude et MJ Reboot, qui sont les deux DJ qui m'accompagnent selon leur dispo. Mais par contre, à part ça, donc ça fait des lives un